Comme le disait Gainsbourg, l'homme a créé les dieux. L'inverse reste à prouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. De tout temps, des hommes se sont servis de la religion comme d'un prétexte pour assouvir leur soif de pouvoir et de richesse. Bien loin des adages dictés par les livres, ces hommes ont élevé leurs convictions au rang de vérité universelle, quitte à faire preuve d'une intolérance sans bornes. Ces hommes, nous les retrouvons partout, tant dans un passé assombri par l'Inquisition et les croisades, que dans un présent meurtri par l'endoctrinement, les attentats, Daesh, et les conflits du Proche-Orient. Et là, je cite Jacques Delors, « La vraie laïcité, c'est d'empêcher que des gens utilisent leur foi pour adresser à d'autres des messages d'intolérance. » Ainsi, j'en conclus que, pour Jacques Delors, ce sont ces hommes et leur fanatisme que la laïcité doit combattre. Mais avant toute chose, un bref historique. La laïcité fut, dans un contexte révolutionnaire, la séparation de l'Église et de l'État. Dès lors, les peuples purent s'émanciper du joug de la religion. C'est ainsi que, peu à peu, les gouvernements occidentaux instaurèrent, pour brasser large, le droit au divorce, à l'avortement et à la pluralité d'opinions religieuses. La laïcité, donc comme le disait Jacques Delors, est un frein à la tolérance et donc un vecteur de liberté. Mais je pense qu'il faut voir plus loin que cette simple définition. La laïcité n'est pas qu'une soupape de sécurité pour se protéger de l'obscurantisme. Il s'agit aussi d'un paramètre essentiel pour garantir l'avenir de notre démocratie. Pour étayer cette thèse, mesdames et messieurs, j'y apporterai ce soir deux exemples. D'abord, nous gardons tous à l'esprit ces dernières années le printemps arabe, une vague populaire partie de la Tunisie, dont l'objectif était d'installer une démocratie là où résidaient encore des dictatures corrompues et liberticides. Pourtant, cette vague, a priori salvatrice, hante désormais nos postes de télévision. La quête de liberté au Proche-Orient s'est transformée en pugilat syrien entre rebelles, islamistes, russes. Mais je ne me risquerai pas sur ce terrain complexe et méconnu. Non, ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un petit pays que tout le monde ou presque oublie, mais qui, en fin de compte, ne s'en sort pas si mal. La Tunisie. Là où les pays voisins ont vu leurs dictateurs remplacés par des frères musulmans, la Tunisie est toujours en lice pour la démocratie, et d'ici quelques années, je le crois, réussira à l'obtenir. Alors, pourquoi ce pays et pas les autres ? Je posais justement la question l'autre jour à ma marraine, qui est tunisienne. Ce à quoi elle m'a répondu « Oh, tu sais, c'est simple, la Tunisie, ce n'est qu'un banc de sable. Rien dans les sols ne pourra jamais les intéresser. » Je suis assez d'accord avec elle, mais pour moi, il y a autre chose. En effet, la Tunisie ne possède pas de pétrole, et peut-être cela la sauve en partie. Mais la vraie différence avec les autres pays, c'est que la Tunisie est un État laïque. Et c'est cette laïcité, profondément ancrée dans les mœurs et dans l'éducation, qui a permis la prise de conscience pour fuir l'intolérance. La Tunisie, armée de sa laïcité, a détrôné l'obscurantisme pour des idéaux démocratiques, entre liberté d'expression et pluralité d'opinions religieuses. Face à la citation de M. Delors, je pense également à une illustration plus récente et plus proche de chez nous. Il y a quelque temps, en Pologne, le gouvernement a proposé de revenir sur le droit à l'avortement. Ce pays, qui ne l'autorisait déjà que dans des circonstances extrêmes, a cédé à la pression ecclésiastique. J'en ai été scandalisée. L'avortement est une victoire incontestable dans l'histoire du féminisme. Le droit fondamental d'une femme à disposer de son corps, comme elle l'entend, en accord avec ses choix de vie et sa santé, sans être jugée pour cela. La remise en question de ce droit détisse toute l'action de Simone Veil et de milliers de volontés, de milliers d'autres militantes comme elle. Mais au lendemain de la proposition, des milliers de Polonaises sont descendues dans la rue et guidées par des convictions laïques ont enterré ce projet scandaleux. C'est dans ce contexte de lutte sociale que la laïcité, pour moi, prend véritablement son sens. Tout à l'heure, face à ma feuille, crayon en bouche, je me demandais comment je pourrais terminer cette histoire que je vous narre aujourd'hui. Celle d'une laïcité multiple, mais toujours essentielle. Sans doute, je finirai par ceci. La vraie laïcité, oui, c'est bel et bien le moyen de limiter l'extrémisme religieux et les intolérances qui en découlent. Mais c'est aussi le moyen, pour les peuples de Tunisie, de Pologne ou d'ailleurs, de s'émanciper et de progresser vers un lendemain plus libre. Je vous remercie.
Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes aux Liégeois, que leur diriez-vous aujourd'hui ?
Croyez en demain. C'est trois mots. Mais c'est le contraire même de ce que nous dicte la société actuelle. Tout le monde est désenchanté. Les jeunes, les plus vieux. Mais moi, je suis jeune, j'ai 16 ans, j'ai la vie devant moi et j'ai envie de croire en demain. Si je n'avais que 30 secondes pour faire un discours, c'est de ça dont je parlerai. De Tina, par exemple, « There is no alternative », qui est un concept qui résume bien le désenchantement des politiques, par exemple, à l'heure actuelle, et de toutes les alternatives que nous pouvons y trouver. Des sites en référence par milliers, ces propositions pour un demain meilleur, un lendemain meilleur. Et je crois que ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil de temps en temps, au lieu d'écouter en boucle des médias qui nous rendent la vie triste, alors qu'elle ne l'est pas. Je vous remercie.